globalement, de la part du clergé officiel et clandestin, cette lettre était vraiment attendue et le contenu de cette lettre, le sens de cette lettre qui s'adresse à tout le monde, a été un grand soulagement pour tous les acteurs catholiques chinois sur le continent. Et ils sont en train, en fait, de l'étudier, de la décrypter, parce que c'est un texte assez long, très précis, qui pose tous les éléments de compréhension, les attitudes possibles aujourd'hui à adopter, et donne une ligne de conduite à suivre. C'est ce que les catholiques chinois attendaient depuis longtemps, et sur cette base-là, ils se sentent, je crois, très renforcés dans leurs espoirs pour l'avenir, se sentent reconnus et pris en compte par le pape, et donc se sentent faire plus que jamais partie de l'Église universelle. Et ça, je pense que c'est un effet très positif qui va redonner de l'énergie et beaucoup, beaucoup d'espoir et d'optimisme pour les catholiques chinois qui traversent encore aujourd'hui de grandes difficultés.
Et sur la question de l'unification de tous les catholiques de Chine, est-ce que vous pensez que les catholiques de l'Église clandestine, donc qui reconnaissent le pape, sont prêts à cette unification ?
En ce qui concerne les catholiques clandestins, appelés aussi souterrains, je pense que la démarche que le pape leur demande est assez difficile et va leur demander une certaine humilité dont le pape ne doute pas qu'ils vont pouvoir le faire. C'est vrai que leur détermination depuis des années à rester fidèle à Rome, quoi qu'il arrive, leur a demandé beaucoup d'énergie et les a fait aussi beaucoup souffrir. L'évolution aujourd'hui au sein de l'Église de Chine, qui allait dans le sens d'une réconciliation depuis plusieurs années, a déjà permis de résoudre cette division dans un certain nombre de diocèses, dans de nombreux diocèses en Chine, mais il reste encore de nombreux endroits, paroisses et diocèses, où la division reste très très forte. Je pense que la demande de Benoît XVI à tous les catholiques de faire un pas, de faire un effort, de surmonter des blessures et des problèmes passés, va certainement stimuler aussi toute cette communauté catholique vers une réconciliation. Cet appel à l'unité et à la réconciliation, effectivement, ne sera pas très facile pour de nombreuses communautés souterraines, mais je pense qu'elle portera ses fruits dans les mois qui viennent.
Mais est-ce que vous pensez que les politiques chinois sont aussi prêts à lire cette lettre avec un point de vue, on va dire, religieux et pas politique, justement ?
Je pense qu'ils pourront la lire dans ces deux dimensions. C'est incontournable. On ne peut pas demander aux autorités politiques chinoises de ne lire cette lettre que sur un plan religieux. La lettre a été envoyée, je dirais de façon très correcte et diplomatique de la part du Vatican. Elle a été envoyée aux autorités politiques chinoises plusieurs jours avant sa publication officielle, ce qui est un geste, à mon avis, que les autorités pékinoises vont enregistrer dans le bon sens, c'est-à-dire la démarche est bonne. On les a informés, c'est évident, et je pense qu'ils étudient cette lettre dans toute sa substance et dans son message qui va vers la volonté non seulement de mettre à plat tous les problèmes et toutes les exigences de part et d'autre afin qu'un dialogue sur des bases saines puisse enfin commencer, ou je dirais puisse se poursuivre, parce qu'il a quand même, ce dialogue a quand même commencé, mais il est toujours perpétuellement, je dirais, secoué par un certain nombre de décisions chinoises qui ne permettent pas d'aboutir. Je pense que dans ce document, toutes les choses sont bien exprimées sur un ton très très conciliant mais ferme, et les autorités politiques vont quand même réaliser la bonne volonté du Vatican, mais aussi face à l'exigence et la fermeté de Rome qui quand même pose toujours l'idée que la nomination des évêques chinois ne peut pas se faire sans l'aval de Rome. Une fois ceci posé noir sur blanc dans un texte, dans cette lettre officielle, je pense que Là, les Chinois vont comprendre que le processus n'est pas stigmatisant pour la Chine, c'est le fonctionnement de l'Église dans le monde entier, et que, si vous voulez, le processus, à ce moment-là, technique pour y arriver, est très possible, et des marges de négociation sont encore évidemment très très grandes.
On entend quand même certains analystes dire que justement cette lettre trouble les relations diplomatiques entre le Vatican et Pékin, et à l'inverse on a le sentiment à vous entendre que pour vous, au contraire, c'est le début, c'est un point de départ et que ça favorise le dialogue.
Moi je pense que c'est un nouveau point de départ après des années d'incompréhension, après des années de quiproquo, après des années de main tendue à laquelle on répondait du côté de Pékin par l'invective, après, je dirais, un certain nombre de maladresses et d'ignorances de part et d'autre qui remontent à des siècles. Je pense que la Chine aujourd'hui s'est suffisamment ouverte et la compréhension du système mondial aujourd'hui est quand même bien intégrée dans les élites, parmi les élites chinoises. Ils savent très bien que les volontés, je veux dire, du Vatican ne sont pas négatives et qu'elles, en fait, qu'elles contribuent à la stabilisation et à l'harmonisation de la société en général, et que les œuvres de l'Église catholique chinoise contribuent à l'harmonisation de la société chinoise, ce qui est le message politique de Pékin depuis des années face à un développement économique très très fort. Donc je ne pense absolument pas que cette lettre puisse être un nouvel obstacle au dialogue, bien au contraire. Je pense que c'est un point, c'est une pierre vraiment posée aujourd'hui en ce début de troisième millénaire sur laquelle les deux parties vont pouvoir vraiment se retrouver et négocier, évidemment, avec une volonté positive des deux côtés. Je pense qu'évidemment, quand au plus haut niveau de la sphère politique chinoise, l'ordre sera donné de trouver une entente, elle se trouvera. Tous les moyens techniques seront trouvés. Les relations avec Taïwan, bien évidemment, le Vatican a déjà dit qu'il déménagerait la nonciature du jour au lendemain s'il le fallait. Quant à la nomination des évêques, le deuxième argument de Pékin réitéré depuis 20 ans, il est clair qu'il y a toujours moyen de trouver un accord sur plusieurs candidats qui sont suggérés, qui sont étudiés et sur lequel, in fine, on peut tomber d'accord sur un évêque sur chaque, pour un diocèse. Donc je pense que là, vraiment, il s'agit d'une décision politique de la part de Pékin et je pense qu'à peu près, à plus d'un an des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, en août 2008, je pense que c'est une nouvelle opportunité qui est donnée à Pékin de faire un pas en avant.
Il en aura, à votre avis, la volonté ?
Ça, c'est un mystère. Je ne peux pas dire aujourd'hui si Pékin aura la volonté d'aller de l'avant. C'est vraiment une décision qui sera prise au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du bureau politique du Parti communiste. Et là, vous avez une poignée d'hommes qui vont décider à un moment donné qu'il est dans l'intérêt de la Chine de renouer les relations diplomatiques avec le Vatican. La Chine a évolué depuis 20 ans dans des tas de domaines, que ce soit politique, économique ou social ou commercial. Si on reste dans une vision très statique des Chinois, là on est, à mon avis, sur le mauvais chemin. En revanche, si on regarde la Chine comme une dynamique qui ne cesse de progresser, qui ne cesse d'évoluer dans le bon sens, on peut se dire que la religion et les liens avec les catholiques et avec Rome progresseront aussi dans les mois qui viennent.